On a compris, on est deux.
Alors là, on a vraiment parfois été dans. Ça me ramène au premier slide réactif. Hein.
Ouais.
On était hyper souvent en mode réactif et plutôt que d'essayer de trouver un contre-argument, d'être en réaction de ce qu'a dit l'autre plutôt que de se tenir à ce qu'on avait dit.
Mais c'était notre rôle, ça nous a habité.
Ouais,
intéressant, une discussion réactive, on est dans ce mode-là.
C'est stimulant.
C'est souvent ce qu'on a, c'est ce qu'on a à la télé, c'est ce qu'on a dans les débats, c'est souvent le mode dans la politique, dans les organisations, c'est souvent le mode de discussion des gens, en fait. Hein.
Bien sûr.
On est là-dedans. Mais bon, alors, ça, c'est une raison, effectivement, je trouve que ça incarne bien, merci de l'avoir vu. Il y a une autre raison, enfin, fondamentalement, pourquoi on a fait.
Moi je trouve que ça génère de l'émotionnel aussi. Enfin, au bout d'un moment, on est allé dans l'extrême aussi dans nos arguments. Évidemment, on sait qu'on ne les incarne pas, mais pourtant, au bout d'un moment, je voyais agir dans son sens. Oh comment
on peut dire ça? Les deux, vous êtes trop forts en termes
Et en fait, c'est marrant parce que pourtant, dans l'absolu, elle le sait cognitivement que c'est un jeu. Mais en fait, ça a généré de l'émotionnel, ça fait écho à un truc, ce qui veut dire que dans cette période de changement, et là, je parle aussi pour moi face à ces situations-là. Quand en fait, on a des personnes qui sont contre ces systèmes-là ou contre la décentralisation qu'on estime juste en fait pour l'organisation, ça nous touche émotionnellement. Donc ce débat-là, ça fait aussi ressortir ça. Ça fait ressortir aussi un côté très émotionnel parce que finalement, ça joue sur des valeurs qui sont importantes pour nous dans la place de l'humain dans l'organisation. Donc, et ce débat, il fait ressortir ça de façon hyper rapide. Quoi.
On peut même aller plus loin, que c'est peut-être intéressant de se remettre d'accord déjà sur nos valeurs communes avant d'aller chercher ce genre d'échange. Parce que dans la pyramide, là, enfin, on voit bien que faut d'abord remonter avant de changer les comportements.
Tu vas clarifier s'il n'y a pas un raccordement au départ, tu parles de valeurs, tu vas débattre sur un truc qui
changer de comportement sans se mettre d'accord sur les valeurs, ça peut être compliqué. Alors, c'est peut-être l'intérêt de Voice Up et du chantier valeurs, mais bon, on n'y est pas encore des valeurs communes. Mais...
En même temps, tu prends les valeurs de l'entreprise qui ont été décidées de façon
simple. Le chantier VoiceUp va rebolloter tout ça. Le chantier valeurs, il arrive là dans 3 mois. Quoi.
Au contexte, là, on a tous été de manière sous-entendue à parler d'Orange. Voilà, s'appuyer un peu sur ce modèle-là. Alors qu'on aurait pu prendre une entreprise avec 5 personnes, ça n'aurait pas du tout donné les mêmes choses. Et pour moi, c'est aussi chaque situation, avantage, inconvénient, à chaque fois, quelle qu'elle soit. Il n'y en a pas une, il n'y a que des avantages, des inconvénients.
Je prends la balle au bon. L'exercice était aussi pour se rappeler que, oui, RAO, mais RAO, on n'est pas des militants de notre organisation. On en a parlé une fois, mais je voulais juste le mettre en phase avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, il y a des avantages et des inconvénients. C'est intéressant cet exercice, vous savez, sur des polarités. D'aller toujours, quand vous sentez qu'un collectif est polarisé, qu'il veut un truc, et souvent il ne voit pas l'autre polarité. Ou il voit les inconvénients de l'autre polarité. Donc on pourrait dire assez facilement, j'ai souvent rencontré des gens qui, par exemple, dans les formations GA, qui sont un peu convaincus, donc ils viennent, on va dire tous les avantages de faire de l'autre organisation, de la centralisation. Je vois bien les inconvénients de l'approche hiérarchique top-down, qui ont du mal à voir les inconvénients de la GA ou la décentralisation, et encore moins les avantages de la polarité opposée. C'est-à-dire et donc, en fait, aller regarder les avantages et inconvénients des deux, cet exercice-là, c'est souvent un exercice qui est assez. Qui permet l'intégration, justement, l'intégration des perspectives. Et souvent, on ne va pas regarder le truc qu'on n'a pas. Enfin, c'est un angle mort. Donc, on a souvent l'angle mort, c'est l'avantage du truc qu'on ne veut pas. Ça, on a un angle mort. On a un peu en angle mort sur l'inconvénient de ce qu'on veut, mais on sait, mais on ne veut pas trop en parler. On voit bien l'inconvénient de ce qu'on ne veut pas, mais on voit rarement l'avantage de ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment un exercice à faire. Et donc, ce qu'on voulait dans l'exercice, c'était pédagogiquement, c'était juste se rappeler, se redire que quand on fait dans l'accompagnement de ces changements, on n'est pas au service de notre organisation, on est au service de l'entreprise, ou du client, on va dire, de notre client. Et que c'est souvent, il y a une demande. Moi, je vois aussi. C'était où là? J'ai vu récemment. Une espèce j'étais chez ce client qui passe tout dans mode créatif là. Ils sont dans l'auto-organisation mais avec un peu posture de militant. Donc ils sont en train de me dire, ils voient que ça, il y a la nouvelle religion, c'est le nouveau truc, ça nous sauve, etc. Et avec beaucoup de critiques à l'égard de l'approche hiérarchique classique, conventionnelle qu'ils avaient, en disant il n'y a plus besoin de manager. Et je trouve que c'est très dangereux parce que c'est un coup à se planter. En plus, ils parlent, ils prêchent un truc qu'ils n'ont jamais vécu, ils ne connaissent pas les inconvénients. C'est vraiment très risqué. Et c'est surtout mettre un déni sur les avantages de tout ce que la sagesse et l'intelligence du modèle précédent, ce qui nous a permis d'en arriver là. Donc il y a énormément d'intelligence. Et donc se couper de ça, on se prive d'intelligence, puis ça met très mal à l'aise tous les gens qui ont contribué dans ce modèle d'avant. C'est comme si on leur disait tout ce que tu as fait, c'était comme ça. Et donc ça n'embarque pas. Et donc je pense que d'être en phase, donc ce travail, c'est un grand exercice de. On n'a pas parlé ensemble déjà,
si je le fais vite fait, donc pédagogiquement, il faut toujours.
Attention à la télé.
C'est très léger.
C'est surtout quand tu vas écrire dessus que
ça risque de basculer. Attention au corps blanc, attention au corps blanc, pas de corps bleu.
Permanent.
Voilà. Là, je mets. Au-delà de ça, il y a une notion qui est intéressante. Au-delà de confronter une notion de passé, de présent, de modèle, c'est aussi une notion de situation. Enfin, pour le coup, avec Frédéric, on a construit un jeu sur la décentralisation. On avait parlé. Ouais. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même dans un modèle auto-organisé, il y a de la centralisation. Ouais. On parlait tout à l'heure du Covid, mais même s'il y avait une entreprise auto-organisée, au bout d'un moment, la crise ou la stratégie, la vision long terme, on peut avoir une vision en fait qui est centrale. Et c'est normal. Et donc, en fait, ce ne sont pas des modèles à opposer, oui. Ni même d'un point de vue temporel, comme tu l'évoques. Ouais. Ce sont des modèles en fonction des décisions à centraliser. Il faut aussi les assumer. Elles ont du sens dans un modèle auto-organisé. Donc pour moi, c'est même pas au-delà de passé présent, c'est en fait ce sont pas des modèles à opposer, ils sont au bénéfice en fait d'un objectif qu'on se fixe.
C'est important d'avoir ça et pas d'être militant au-dessus de nos approches.
Ouais, bien sûr.
Et par exemple, Brian Robertson il dit que il dit dans la démocratie, il y a plus d'autocratie que dans les modèles conventionnels d'entreprise où il y a beaucoup de consensus, où finalement oui, il y a des gens responsables, mais comme ils sont responsables et ils sont patrons, en fait ils sont intelligents d'aller construire. S'ils sont déjà, ils vont les consulter, ils vont les vérifier, ils vont passer du temps, donc des consensus. Et en fait, il y a plus d'autocratie dans un rôle où on va même aller demander aux gens de prendre des responsabilités, d'assumer leurs décisions. Et donc finalement, il y a l'autocratie à plein d'endroits. Ouais. Et donc, ça peut même avoir des limites avec ça. Donc, en réalité, le modèle de la critique est vraiment plus autocratique qu'un modèle conventionnel, en réalité. Mais c'est juste ça, au même endroit. La décision, elle est plus distribuée, peu importe. En tout cas, je vous donne juste cet outil. Donc là, sortons du sujet. Il y avait le premier point, c'était attention, pas des militants de l'auto-organisation, de la GIA, etc. On est au service d'un client. Et c'est important voilà, c'est le biais qu'on voulait éviter, c'est juste un petit rappel. Deuxième takeaway, c'est quand on fait toujours deux polarités. Par exemple, polarité A, par exemple, je vous donne un exemple. Il faut aller vite. Juste un exemple comme ça qui vient. Puis la polarité B, par exemple, il faut aller lentement. Voilà, en ce moment, il faut qu'on aille lentement. Il faut qu'on ralentisse. Voilà, ralentir. Il faut accélérer, mettons. Ça pourrait être de polarité dans une conversation dans un groupe. Donc très souvent, donc, vous pouvez faire comme exercice, c'est d'aller regarder c'est quoi les avantages d'aller vite. Vous pouvez toujours commencer par la polarité que les gens. Ce qui est dans le groupe est en train de nous dire, en train de se raconter qu'il faut aller vite. Donc, okay, c'est quoi les avantages d'aller vite? On va pouvoir faire ça, voilà. Et puis ce serait quoi les inconvénients d'aller lentement? Donc vous allez après sur les inconvénients d'aller lentement. En effet, c'est quoi les risques si on va lentement? Là, les gens vont avoir des idées. Et après, vous leur dites, mais attendez, est-ce qu'il y a des inconvénients à aller vite? Allons-y. Ils vont dire, ouais, alors les inconvénients d'aller vite, en effet, il y a des inconvénients, quand même qu'on fasse gaffe à ça, à ça, à ça. Ce serait quoi les avantages d'aller lentement? Ça, vraiment, ça c'est sûr. Et c'est ça, et c'est là où on a pris le temps de poser ça. Et il y a une prise de conscience. Donc ça, c'est un exercice pédagogique qui est souvent, que je trouve très intéressant, intégral, dans le sens où on va regarder les polarités dans deux dimensions. Et donc, quand on a. Il y a toute une méthodologie. C'est cette méthodologie, en fait, très simple, que je trouve pédagogiquement super, super important. Et donc, quand dans le coup, on a été visiter les quatre, on peut aller voir ce qui peut émerger. Qu'est-ce qu'on fait avant tout ça? Peut-être qu'il y a de la sagesse à aller chercher. C'est toujours aller chercher dans l'opposé, mais là, souvent, il est inconscient.
Il y a un moment donné,
s'il y a une décision à prendre A ou B, moi, ce que j'aime bien, c'est un processus que j'ai eu systémique, c'est de réfléchir par qu'est-ce qu'on assume le plus en fait en termes de conséquences. C'est quoi les conséquences les plus assumées pour faire prendre une voie, quoi.
C'est une bonne idée. Comme c'est critère de décision, ce serait quoi les... Une fois qu'on a fait ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et ce serait quoi les conséquences qu'on peut l'assumer? C'est un bon critère.
Le temps aussi.
En tout cas, c'est juste attention quand vous avez un groupe qui part dans un truc, dans une idée, de capter qu'il y a une polarité qui est en train de sortir, que les capter qu'il y a les gens sont en train de se raconter une histoire et qu'ils n'ont pas forcément conscience de l'autre option, de la polarité opposée. Après, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident de nous, nos services, mais de les amener à regarder l'autre côté et de structurer leur pensée. Ça va souvent, ça permet après de reposer la problématique ou de prendre une décision. Peut-être qu'on va aller dans le sens d'aller vite au final, mais avec des nuances, avec des ajustements, avec voilà, un dispositif qui va être plus malin, plus fin, plus sophistiqué.
C'est intéressant quand on utilise, autant faire ce peu et minimum viable change pour justement identifier ce qui se passe et puis pas d'être juste dans le projectif. Mais aussi dans le vécu, de prendre aussi un temps de réadaptation en fonction des constats, etc. Parce que ça, bah, on est avec une image fixe, en fait c'est aussi une image mobile, qui dans le temps, quand tu commences à le vivre, bah, va amener des choses différentes. Puisqu'on n'est pas capable de déterminer comment on réagira dans une situation donnée.
Tu veux dire un peu plus sur le minimum
de... Ben c'est que quand tu veux faire quelque chose, plutôt que de partir sur une prise de décision et maintenant c'est comme ça, c'est on teste, on essaye de faire à ce qu'on puisse revenir en arrière si des fois ça ne nous va pas. Donc que ce soit le plus possible revenable en arrière. Ouais. Et du coup, on va donner un certain temps pour tester et voir ce que ça donne. Par exemple, 3 mois.
D'où l'importance d'avoir des cycles, de travailler en cycle de 3 mois.
Et en même temps, ben, du coup, comme on n'est pas capable de déterminer notre réaction, une fois qu'on est confronté réellement à la situation, on peut imaginer, tous les travaux de recherche ont montré qu'il y a un écart de dingue entre ce que tu pensais que tu ferais ou comment tu réagirais versus comment tu réagis vraiment. Là, ça permet d'être avec du vrai matériel, du vrai retour, puisque là, c'est vraiment ce qui se passe. Et de chercher aussi des adaptations en cours de route, pour qu'après, quand tu aies fait le bilan de ton expérimentation, et ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On pensait ça, finalement il y a ça qui s'est passé, on a aussi testé ça, puis on n'attend pas 3 mois pour commencer à adapter. C'est con. Donc on a essayé d'adapter ça, et finalement, comment ça va? Ben, peut-être que si on s'est arrêté au million, on se serait dit, oh, mais c'est n'importe quoi, mais que finalement, l'intelligence collective, ou ce qui s'est passé, ou ce qu'on a mis en œuvre, permet finalement d'arriver à quelque chose qui est peut-être encore bien au-delà de ce qu'on avait imaginé, même au démarrage.
Et bien là, c'est vraiment l'importance, nous, en tant qu'accompagnant, de décoller les gens du guidon. Nous, on doit le faire, mais encore
faire vivre.
Ouais. Parce qu'on est vite fait à suivre un schéma dominant, être englué, tout ça, toute cette mécanique qu'on trouve en créativité, qu'on doit après réexploiter pour passer au stade d'après, il est juste crucial, parce que sinon il n'y a rien qui va tout ce qui est Rex, tout ce qui est prise de tout ce qui est dans notre accompagnement qui va permettre à cette prise de recul, c'est vraiment des choses à pas zapper, quelle que soit la forme. Ça peut être des temps courts, ça peut être des temps plus instaurés, mais franchement c'est ça qui passe à la belle.
Une phrase de Mike Horn qui disait 95% d'un projet impossible, c'est l'improvisation. Et finalement, qu'est-ce qu'un projet possible ou impossible? C'est un terme un peu... Ça dépend le regard qu'on va poser. Ça dépend de vers quoi penche le collectif. Et du coup, c'était de se dire, étant donné qu'on connaît qu'il n'y a que 5%, si on fait la déduction, il n'y a que 5% qu'on peut savoir, le reste, ça se passe quand on est en train de faire. Donc, n'essayons pas de chercher au-delà de 5%, parce que là, on va rentrer dans l'illusoire, et vivons la situation. C'est elle qui va être la plus apprenante.
Juste pour revenir, en fait, là, sur le schéma maintenant que tu as fait, en fait, qu'est-ce qui doit nous alerter justement, on est trop dans le plus ou moins, sur les avantages là, c'est que d'un groupe par rapport à l'autre, est trop dans la contre-argumentation, et pas dans l'écoute des arguments, pour pouvoir reconstruire
en termes de tips derrière
tu peux dégager, essayer de penser à des équipes que vous accompagnez. Par exemple, moi je prends le client là. Ils ont une grosse transformation, un modèle par cercle et tout autour de produits. Donc c'est des verticales avec des fonctions. Puis maintenant c'est surtout des produits. Donc c'est des équipes de produits qui développent les produits et les fonctions sont en support et c'est eux qui ont le P&L. Donc c'est eux qui décident de leur budget. Alors qu'avant ils avaient il fallait qu'ils demandent. C'est un projet qu'ils avaient demandé pour les différents à chaque fonction un peu de budget pour faire. Pour avancer. Maintenant, c'est eux qui portent le budget de la boîte. C'est eux qui ont leur budget. C'est comme une petite entreprise en fait. Et les autres sont comme des prestataires. Et ça, c'est un gros changement. Ça a plein de conséquences. Et donc, pour ça, il y a tout un modèle de culture. Et donc, ils ont des formations pour former à la culture. Et nous, comme les partenaires, on a fait la formation pour comprendre leur vocabulaire, pour qu'on, dans nos interventions, on parle de la même chose, etc. Donc, j'ai fait, c'était intéressant d'aller faire une formation dans une autre boîte sur leur sujet transfo fait par un autre cabinet de conseil. Et, ben, et c'était maintenant déployé par des coachs internes. C'était plus les coachs qui étaient conseillers. Ben, moi, si j'animais, parce que ce que j'ai observé, c'est que ces coachs internes, ils portaient une conviction non vérifiée. Ils n'ont jamais fait avant, ils parlent comme si. Donc, moi, je repère là, je me dis, attendez, ça sent un peu le. Ça sent la conviction non vérifiée. Tu vois, ça sent le parti pris très fort. Alors. C'est pas pareil de dire on va vers là, mais on a conscience des risques, quand on sent qu'il n'y a pas de conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas, de pondération, on ne parle pas des risques, on ne parle pas des avantages de ce qu'on quitte, mais qu'on parle que d'un truc comme si c'était la solution, le truc à faire absolu, etc. C'est intéressant de faire ça parce qu'il y a peut-être un angle mort. Et donc, je n'ai pas de meilleur exemple qui me vient là, mais c'est pour vous donner peut-être une pensée, vous pouvez repérer ça dans les équipes. Ça peut être, il faut absolument qu'on coupe le budget, il faut absolument qu'on recrute quelqu'un là-dessus, il faut absolument qu'on fasse telle action. C'est marrant, il se dégage comme une tension, une rigidification autour d'un truc qu'on doit faire absolument, qui est super important. Tiens, on peut regarder, c'est quoi l'opposé? Ce serait quoi l'avantage de l'opposé? Je ne sais pas si ça vous parle ou j'ai pas d'autres exemples.
J'ai une question par rapport à cet outil-là sur les polarités. Donc on peut l'appliquer à centraliser, décentraliser. Mais est-ce que tu vois un cas d'application dans l'univers de la GA pour alimenter une discussion, un débat, je ne sais pas moi, sur une brique, une modalité de l'intérieur, une réunion,
il y a deux exercices. Il y a l'exercice qu'on vient de faire avec le débat. Ouais. Ça, c'est quand vous voulez pédagogiquement. Si vous voulez pédagogiquement, justement, vous avez anticipé, vous avez fait un conducteur et vous voulez que les gens explorent les deux options possibles. Et le débat permet de sortir tous les arguments de chaque côté sur la table, donc de stretcher les polarités pour pas, justement, sinon on est un peu dans le mou au milieu et c'est un peu en baisse en énergie. Donc si vous voulez monter en énergie, vous allez demander aux gens d'aller vraiment argumenter, vous mettez de l'emphase. Ça, c'est intéressant pour poser une problématique. Donc, c'est un exercice pédagogique que vous pouvez utiliser. Le premier. C'est l'exercice.
Avocat du diable, je ne sais pas comment il appelle.
Je suis rentrée un peu dans un trou. Ils étaient censés être hyper fluent en GA, mais je savais qu'il y avait plusieurs personnes qui appelaient ça la secte moule. Donc potentiellement, ouais. Donc je savais, et donc le jeu avec la personne qui m'avait dit, c'est que je prononce secte moule à un moment donné en disant.
La GA, c'est une secte
moon. Détendez-vous, c'est pas la secte moon. Donc la personne, elle s'est reconnue. Elle, pourquoi elle dit ça? Mais en tout cas, à ce moment-là, ça aurait pu être intéressant de tout de suite casser le truc.
C'est-à-dire la GA, c'est une secte. La GA, c'est
un peu forcément faire un débat. De secte, mais dire qu'est-ce que vous allez à perdre ou à gagner pour.
Allons-y.
Je perds, je gagne.
Après, tu as les chapeaux de Bono aussi qui te permet d'enlever certains biais cognitifs. Ouais, tu pourrais te dire finalement, voilà, je me mets vraiment sur le chapeau noir ou sur le chapeau jaune. Et après, peut-être que la partie créativité, c'est qu'est-ce que je peux prendre des deux. Parce que finalement, tout n'est pas noir ou jaune, mais tout peut être au bout d'un moment. Si je peux prendre dans mon ancien monde, dans ce qui n'est pas bien, peut-être que je peux garder ça parce qu'en fait, c'est utile en fait, à mon objectif. Et sur la GA, ça c'est bien, ça a tel avantage. On pourrait aussi l'utiliser pour enlever les biais cognitifs sur des groupes qui sont très qu'on connaît bien et comme tu l'évoquais, on sait qu'ils ont un certain biais. Moi je le vois sur ceux que j'accompagne, il y en a certains, ils ont des biais en fait. Et avec cet outil-là, j'ai pu quelquefois en fait, leur enlever leur.
On dit plusieurs choses qu'on parlait. Alors, juste pour terminer sur l'exercice des pôles qu'on a fait de débat. Par exemple, ça peut être vraiment intéressant s'il y a une réflexion à creuser. Par exemple, il faut investir, il ne faut pas investir. Mais c'est pas un truc très opérationnel. Ouais. La stratégie X, on doit. Il faut faire la fusion entre la BLI et BI2E. Il faut pas, et non, il faut rester indépendant. Okay. On pourrait s'amuser, plutôt que discuter comme ça, aller chercher les arguments pour, les arguments contre, et après voir ce qui est ressorti en synthèse, et se forcer à aller jouer le jeu, même si on ne croit pas, à aller défendre notre truc qu'on proposait. Ce serait amusant d'ailleurs, on a créé ça, de défendre la ligne de fusion. Parce que en fait, ça nous pousse intellectuellement à trouver des idées, et surtout, ce que je ne vous ai pas trop fait, mais je voudrais être plus d'exemples. Donnez-moi un exemple qui va soutenir l'idée. En fait, ça va mettre de l'énergie dans un débat. Pédagogiquement, c'est une bonne idée. D'ailleurs, après, on va avoir une discussion, une synthèse. Ok, c'est pas forcément ce qu'on croyait, mais maintenant, ça nous a fait quand même, ça nous a boosté, ça nous a fait réfléchir au sujet. Donc ça, c'est un exercice pédagogique intéressant. Quand il y a option A, option B, on doit prendre une décision, on doit réfléchir. C'est pour poser une réflexion. Donc ça, c'est le premier truc. C'est intéressant aussi si vous voyez une croyance, comme je disais, dans les, ce qui pourrait être une croyance du style l'AGA, c'est la solution parfaite. Bah, vous leur demandez d'argumenter le contre-argumentaire, et le débat va permettre aussi de se rendre compte que oui, il y a quand même voilà, des points d'attention. Donc, vous pouvez après faire une discussion de synthèse. L'autre outil, c'est celui que je vous ai montré ici. Bon, on n'a pas expérimenté, mais je voulais juste expliquer. C'est presque plus à la volée. Vous voyez à la volée et vous sentez que ça part là, on est en train de se raconter une histoire. Mais est-ce qu'on a vraiment été vérifié l'autre histoire, qu'on a vraiment ça. Et ça, vous pouvez le faire à la volée, ça prend 5 minutes. C'est un chouette exercice sans mettre en scène avec les arguments et tout. C'est un peu plus rapide. Vous pouvez le faire aussi avec un collectif, ça va assez vite. Et c'est un outil pour moi d'animation ou presque de coaching en fait, d'animation d'équipe, qui permet de un peu le même chose de décoder ou de faire sortir un angle mort pour que l'équipe soit plus consciente de son sujet. C'est là que ça rejoint un peu plus le chapeau de Bono, où là encore plus c'est structuré par étapes. Ça rejoint, on est plus dans la famille de Bono.
Et tu sais, dans le premier exemple que tu donnais là aussi pour les polarités, ouais. On l'utilise, mais beaucoup en market ou en strat aussi, on appelle ça des wargames, où en fait on pousse des scénarios à l'extrême en polarité. Ça peut même être des journées où en fait tu fais des tables sur les scénarios et ils te montrent tout, quoi. C'est-à-dire jusqu'au business plan, enfin, mais dans la polarité vraiment très extrême.
Très extrême, ouais.
Pour voir jusqu'où
oui,
ça va.
Aller très loin,
et ça va un peu jusqu'où expliquer aussi tout à l'heure Cédric, c'est qu'est-ce qu'on assume du coup de prendre comme décision dans ce scénario-là en fait à l'extrême. Et c'est ce qui peut pousser parfois aussi, moi je l'ai fait dans des cadres de réorg, où tu disais, pour rigoler, la fusion de deux entités, etc. Mais nous, on l'avait fait sur la réorg des TSI, on avait imaginé des wargames sur des scénarios. Enfin, ça a mis les gens, mais dans des, même, tu vois, dans des états assez émotionnels, etc. Mais ça leur a permis d'explorer les polarités qu'ils fantasment, parce qu'il y a une notion de fantasme aussi sur les polarités.
Tout à fait,
oui. Donc ça re-rationalise finalement, en amenant les vrais arguments, et ça enlève, en plus, je trouve, cette notion de fantasme. Au-delà d'être militant, il y en a qui ont des fantasmes
mais
sur l'autre.
Mais souvent, en même temps, c'est des fantasmes. Enfin, on fantasme un truc, donc on devient...
Ouais, où on a des valeurs, on croit au truc, mais l'autre côté peut fantasmer le contraire, avoir peur des croyances.
Exactement.
Mais honnêtement, nous-mêmes là, dans l'exercice, dans le jeu qu'on avait, je pense qu'on disait des trucs qu'on ne croyait pas et ça s'est vu, donc je pense qu'on n'était pas non plus hyper...
Mais c'est intéressant si vous allez vraiment chez les arguments que vous ne croyez pas mais qui tiennent. Mais c'est pas grave si vous n'y croyez pas, justement c'est l'exercice, ça vous déplace intellectuellement.
Mais vous avez bien joué le jeu, même si vous n'y croyez pas, enfin, comment vous l'avez posé. Nous on a eu des difficultés, je pense que c'était deux, parce qu'on n'était pas, pas convaincus par cette... par des arguments ici, donc du coup on a eu du mal à défendre une position.
D'ailleurs, spéciale dédicace à Laetitia qui essaie de nous rassembler.
Il y avait de l'harmonie là, il y avait de l'harmonie. Hein.
Tu veux amener une synthèse.
Exactement toi, alors je vais synthétiser, on a tous un peu raison, nous réconcilier, c'était trop chouette.
C'est pas du talent,
le dernier point
tout ça.
Pour la valeur, le truc de polariser, c'est que ça fait monter en énergie. Et par exemple, en fait on a toujours les groupes, on va avoir ce processus naturel de vouloir faire ce qu'on appelle du sameness. On est d'accord. On est d'accord. Bon, bah, on peut dire que les deux ont raison un petit peu. Et en fait, on va toujours aussi souvent chercher, quand on rencontre des gens, à faire du sameness. C'est-à-dire, le premier truc qu'on fait, c'est les points communs.
Ouais,
le fait qu'on soit pareil nous détend notre système nerveux. Dans un collectif, si on sait qu'on est pareil, ah oui, toi aussi, tu as travaillé machin, machin, ah, mais toi aussi, t'as là, en fait, ça se détend parce qu'on n'est pas en danger. Okay. Et donc, si on est trop d'accord sur ce qu'on doit faire, quitte à avoir tort, on pourrait, le risque d'un groupe, c'est de se mettre d'accord. Ce que ce qu'on appelle sameness, être pareil, nous amène pas à avancer, à monter en maturité sur nos sujets. Donc et vous entrez en jeu en tant qu'animateur et accompagnateur, c'est de débloquer ça. Et donc on va aller chercher la différenciation. L'inverse de la sameness, c'est la différenciation. Et donc on va aller, en stretchant les polarités, on va différencier. Même si on sait que les gens sont plutôt d'accord, on va aller forcer la différence. Et c'est là où on va monter on va pouvoir intégrer ensuite. Donc forcer la différenciation, sortir du sameness, forcer les gens à sortir d'être d'accord, créer du désaccord, ça monte en énergie pour pouvoir ensuite intégrer avec plus de conscience. Okay. Parce que souvent dans le sameness initial, on dit pas les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on dit que les choses sur lesquelles on est d'accord, mais en fait derrière, les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on n'ose pas le dire. Et donc, travailler sur les polarités, c'est la manière de sortir de cette... on parle de sameness, differentiation, integration. C'est ça les trois étapes. Et après, mais on a besoin de poser les désaccords, les tensions, les différenciations pour pouvoir ensuite intégrer.
Dans la dynamique d'animation, je me pose une question depuis tout à l'heure et je ne sais pas si ça va à l'encontre du coup de cette intention. Ça a été de commencer un petit peu à faire parler sur décentraliser les organisations, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire commencer un petit peu par une étape juste de partage sans rentrer dans le débat, ni dans la recherche d'argumentaire. Et le lien que je fais sur une thématique perso qui m'est très chère, c'est la parentalité positive, qui est énormément décriée parce qu'elle est méconnue. Et donc du coup, c'est en fait dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? Donc est-ce que ça vaut le coup de passer par une petite phase préalable de discussion sur un petit peu une danse, genre de danse des mots, qu'est-ce que c'est, avant de rentrer sur de l'argumentaire et du débat, ou au contraire, est-ce que quelque part ça défriche un petit peu trop ce système de recherche d'arguments.
Ça doit sentir si l'objectif.
S'assurer qu'on parle de la même chose, quoi, déjà.
C'est vraiment dresser un genre de périmètre commun, en sachant qu'il est superflu, bien entendu.
C'est dans l'exercice. Ouais. J'étais mal à l'aise parce qu'en fait, j'étais trop dans la théorie, pas sur le cas pratique, donc j'ai eu du mal à me projeter. En fait, ouais. Alors pourtant, en plus, il y a des exemples comme ça qui me viennent, mais ils sont venus après, mais peu importe. Donc j'étais pas sorti. Mais du coup, j'étais trop dans la.
Vous aurez pu sortir plus d'arguments. Il y a plein d'arguments à dire. Enfin, des deux côtés. Je pense que vous auriez pu être plus dur des deux côtés, plus ferme, plus tenir plus vos trucs. Il y a plein de choses que vous auriez pu.
Après, cet exercice, il peut être fait comme une purge. Et à ce moment-là, je pense que c'est intéressant direct d'aller sur le débat. Parce qu'il y a tous les croyances que tu dois sortir sortent. Si c'est une autre étape que tu veux positionner, parce que ça peut être plus constructif dès le départ et que c'est plus on n'est pas contre, mais on est en train de voir justement tout le panorama, bah là tu peux prendre un peu plus. Enfin, tu peux commencer par faire ces explications, ces clarifications avant de faire la réaction.
Ouais. Tu peux mettre du photo langage, tu peux mettre énormément de choses qui permettent effectivement de comprendre un petit peu de quoi on parle.
On parle avant de débattre.
C'est ça.
Et je trouve que là aussi c'est intéressant, ne serait-ce que nous en termes d'accompagnant, parce qu'on se retrouve dans des situations sans avoir une notion de convaincre, hein, comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une notion militant à convaincre, mais du moins d'essayer parfois d'amener un autre prisme. Ce qui rassure tout le temps dans l'ancien monde centralisé, ce sont les indicateurs, les chiffres, etc. Moi, ce que j'ai appris d'expérience, c'est que parfois, pour aller rechercher un point entre les deux mondes, il faut parler le même langage. Et ce n'est pas le langage centralisé qui va faire un effort pour comprendre le langage décentralisé, qui généralement le prend comme une secte, hein, même chez Orange, on en évoquait la dernière fois. Et donc, je me dis, c'est aussi, en fait, à cette organisation, donc, je veux dire, à côté, qui n'est pas issue du système dans sa nature, etc., d'être capable d'aller trouver des arguments dans le langage de l'autre monde, entre guillemets, pour montrer finalement un bénéfice équitable. Moi, j'ai vu des structures entières se libérer. Et ben, en fait, on les a laissées se libérer pour deux uniques raisons. C'est un, c'est devenu la première EPR de France, elle a remonté les indicateurs de je ne sais pas combien de pourcents, que en fait, tous ces indicateurs d'écoute salariée étaient très très bons, et qu'en plus, les indicateurs de performance économique étaient bons. Et en fait, elle n'était mesurée en fait que dessus, elle devait montrer plus en fait en termes de performance économique pour montrer que son système en fait fonctionnait. Donc c'est-à-dire que même si ce n'était pas le cœur du système et que c'était les arguments par exemple qu'ils évoquaient, elle parlait le langage de ce monde centralisé pour dire nous ce qui compte c'est la performance économique, la performance
sociale. Oui, ça aurait été un bon exemple pour eux de dire,
exactement.
Regardez l'UPR, machin, on fonctionne comme
exactement.
Ça.
Exactement. Regardez, la RGA, même Stéphane Pincivy, hop, on a décentralisé le budget, on a économisé 10% par an ROI.
C'est pour ça que je te disais tout à l'heure.
Moi, c'est ce que j'aurais donné, tu vois.
J'ai envie de ressortir. J'ai un truc à dire. Les budgets, on a
exactement. Jusqu'à demain soir. Mais
c'est important qu'on se le dise parce que dans des clients qui sont... qui ont envie d'y aller, mais qui en même temps ont des doutes en termes de performance, on n'est pas une société, on n'est pas une loi, une association de loi 1901, donc en fait, on doit quand même démontrer que ce système amène une performance économique. Et pour pas qu'on nous trouve militants et perchés, on doit aussi être ancré, je trouve, à une réalité opérationnelle dans notre discours, dans la nuance, mais aussi par rapport
ça, c'est à... Ça, on revient dans le contenu de la discussion.
Ouais.
Okay. Après, je pense que dans la démarche, en tout cas dans la rhétorique, c'est pas d'opposer, encore ce que tu disais tout à l'heure, un système par rapport à un autre. C'est finalement un enrichissement en fait du système. Et en fait, si tu arrives à le montrer en fait comme ça, c'est-à-dire, bah non, on casse pas en fait tout l'ancien système, mais on vient l'enrichir. Et puis, ça, c'est pas la même approche. En fait.
Ok. Donc, je vous invite à être attentif dans un collectif quand il y a trop, quand l'énergie tombe. Pas parce que j'en suis fatigué, mais que vous sentez qu'il n'y a pas trop d'énergie, c'est qu'il y a trop de, Il faut aller chercher les polaires. Comment on peut aller stretcher, créer de l'énergie en créant du désaccord? En faisant ressortir les désaccords, c'est qu'on est trop dans le consensus et qu'en fait on se raconte pas les vraies histoires, c'est pas les vrais trucs. Et donc aller sortir, mettre des mots et obliger à stretcher la différenciation, c'est pas facile, c'est inconfortable, mais c'est ça qui met l'énergie, c'est là en rendant les vrais sujets, et derrière il faut reformer et intégrer. Et donc ça c'est vraiment pédagogiquement, c'est important, c'est des outils pour ça, ce qu'on est en train de faire, c'est des outils pour stretcher les différenciations. Je me rappellerai, donc
Ouais.
Okay. On se fait. Ouais, et après on regarde sur la. On travaille sur le. On ira jusqu'à 13h.
On fait comme jusqu'à présent pour manger. Qui a besoin, qui a envie de quoi? Hein? C'est qui a envie de quoi?
La groute là.